Les deux ouvriers. C'est samedi, l'heure de la paye a sonné, et les ouvriers, quittant leur établi, passent au bureau. Bientôt, tous les comptes sont réglés, et leur argent en poche, les travailleurs sortent en foule de la manufacture. Regardez celui-là. Elle s'en va lentement, les bras ballants, comme une âme en peine, tandis que les seins effarés se pressent de tous côtés, heureux de se retrouver à l'air libre. Lui semble triste et comme dépaysé. Celui-là, c'est un ouvrier sans famille. Il n'y a chez lui ni femme, ni enfant, ni vieille mère. Il n'a pas de chez lui. Il loge en garni dans une maison meublée. Son galetas est au 5e. Il n'y rentre que le plus tard possible, car il n'y a ni chaleur, ni lumière, ni confort dans ce bouge. Il mange à la gargote, mais il a bien le temps. À 7 heures, l'auberge est pleine. Il lui faudrait disputer un coin de table à quelqu'un connu. Il préfère attendre que la presse soit passée et flâne le long des rues pendant ce temps. Il s'arrête devant les boutiques, mais il regarde tout d'un air ennuyé. Coudoyé à chaque instant par les passants, le pauvre garçon est plus solitaire, plus abandonné que s'il était perdu dans les steppes de la Sibérie. Un jour, il eut la pensée d'acheter un chien. Mais on ne veut pas de chien à l'atelier. Et il eût été trop cruel de le laisser tout le jour dans la mansarde. « Dis donc, Jean, entre donc prendre l'absinthe. » C'est à notre homme que cette invite est adressée. Elle sort d'un cabaret devant lequel il passait, sans voir une demi-douzaine de camarades réunis devant le comptoir. Il est splendide, le mastroquet. Des candélabres à 5 becs éclairent sa devanture. Il est tapissé de papier rouge et or, éclatant à la lueur du gaz. Le comptoir de zinc scintille comme de l'argent. On entend le choc familier des verres. Jean hésite un peu. Il n'aime pas l'absinthe, ni les liqueurs fortes. Mais bah, on s'ennuie trop sur le pavé. Et le pauvre ouvrier va se joindre au buveur. Regardez donc ce brave homme qui descend la rue d'un pas pressé. Interroge du regard tous les omnibus qui passent pour voir s'il reste encore une place à l'impériale. Il sort du même atelier. Il passe devant les boutiques sans les voir. Le cabaret lui-même n'a pas d'attrait pour lui. Le cabaret, c'est bien en pure perte qu'il se fait si beau, si lumineux, si c'est pour attirer des clients comme celui-ci. Ah, c'est que Paul est marié. Il est allé se loger loin, mais son logement est joli et il y fait bon. En descendant la rue, savez-vous à quoi il pense? À cette gentille salle à manger où la table est dressée, où l'attend cette petite femme qu'il a prise dans un jour de folie, car il n'avait pas le sou, ni elle non plus, la folie la plus sage qu'il ait faite de sa vie, à ce bébé dans le berceau d'osier qui a commencé hier à dire « Papa, grande merveille !» Vous verriez passer tout cela sur son visage qui sourit, si vous pouviez le voir de près, mais il marche trop vite, il est si pressé. Les deux ouvriers gagnent le même salaire. Le premier n'a que lui à soigner, tandis que le second a 2 autres personnes à nourrir. Le plus heureux, pourtant, c'est le second. C'est lui le mieux vêtu, le mieux portant, le moins soucieux. Si vous pouviez entrer dans l'atelier, je vous les montrerai tous les deux travaillant côte à côte. Le plus vaillant à l'ouvrage, le plus gai, ce n'est pas le célibataire, c'est toujours l'homme marié. Heureux l'honnête homme qui a trouvé une honnête femme sur son chemin et qui travaille pour elle tandis qu'elle travaille pour lui. Heureux celui qui sait où aller après sa journée, qui sait où passer les longues soirées, qui connaît les joies paisibles du foyer. Heureux celui qui possède un chez-soi. Mais cette fin de semaine, savez-vous à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à la fin de la vie. Le jour va venir où chacun de nous devra rentrer chez lui. Déjà nous sommes en route. Auditeur, êtes-vous pressé d'arriver? Y a-t-il un foyer qui vous attend? Avez-vous autre part qu'en ce monde, qui n'est après tout qu'un immense atelier? Avez-vous ailleurs une famille, un être aimé, une toute-puissante attraction? Ou bien, comme le premier ouvrier dont j'ai parlé, allez-vous sans savoir où, sans vous sentir aimé par personne, et prêt à vous livrer aux premières influences venues, pourvu qu'elles vous fassent oublier votre isolement? Si l'on me demandait quelle est la différence entre un chrétien et un homme ordinaire, je répondrais « La voici. Tous les deux sont des ouvriers, tous les deux travaillent, tous les deux ont de la peine, tous les deux ont à gagner leur pain à la sueur de leur front, le deuil, la maladie, la mort les menacent tous les deux. Le plus pauvre des deux, le plus affligé, le plus souffrant, c'est parfois le chrétien. Mais le chrétien chante en travaillant et l'autre murmure. Le chrétien travaille comme deux, l'autre fait à peine sa tâche. Le travail fini, le chrétien est pressé de partir. L'autre ne sait où aller. Dans le froid du dehors, dans l'ombre de la mort, le chrétien voit luire de loin la maison, le foyer, l'amour du père. L'autre ne voit rien que quatre planches et un trou noir. Aussi, le chrétien a-t-il hâte d'arriver, tandis que l'autre s'attarde et s'amuse en chemin, le plus qu'il peut. Auditeur, il y a une maison pour vous. Il y a pour vous une table dressée, une famille vous attend, un père vous tend les bras, un époux vous appelle. Croyez-le, et que l'espoir de rentrer chez vous soutienne votre courage dans le travail et vos pas quand il faudra traverser la vallée sombre.